This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Syrie et au Mexique. Deux pays à la une d'ailleurs dans le monde avec Michael Thébault. Donald Trump à la Maison Blanche. Notre feuilleton politique américain du lundi signé Frédéric Carbone en direct de Washington. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur un scandale de viande contaminée au Brésil. Tout de suite les relations Turquie-Union Européenne.
Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Revenons un an en arrière, sous l'impulsion de l'Allemagne, la Turquie acceptait un vaste plan permettant de fixer, entre guillemets, les migrants sur son sol et d'éviter ainsi qu'ils passent en Europe. Très critiqué à l'époque, ce plan a tout de même montré son efficacité. Un an après, alors que la Turquie doit décider par référendum de devenir un régime présidentiel, voire autoritaire, le président Erdogan ne cesse de traiter l'Allemagne de pays nazi et les Pays-Bas de fascistes, aujourd'hui en encore, la Turquie a repris ses accusations parce que ces deux pays, Allemagne et Pays-Bas, ont refusé que des ministres turcs viennent faire campagne pour ce référendum sur leur sol. Alors, quel avenir pour cet accord sur les migrants? Quelle relation entre l'Union européenne et une Turquie autoritaire? Débat ce soir avec Gayitz Minassian. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de relations internationales à Sciences Po, journaliste pour les pages Débat du Monde. Marc Pierini, est en duplex avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Ancien ambassadeur de l'UE en Turquie, auteur de « Où va la Turquie ?» aux éditions Actes Sud. Et on est enfin au téléphone avec Dimitris Christopoulos. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes président de la FIDH, la Fédération internationale donc des Ligues des droits de l'homme, et professeur de sciences politiques à l'Université d'Athènes. Ma première question pour vous, est-ce que l'accord entre la Turquie et l'UE a permis de réguler les flux de réfugiés, notamment en Grèce, la Grèce qui était en première ligne?
D'un côté, oui, mais de l'autre côté, il faut prendre en considération que les flux migratoires ont été diminués déjà par la clôture de ces couloirs balkaniques, même avant la signature de l'accord. Alors, il ne faut pas considérer que tout le travail a été fait par l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Le travail a été déjà fait avant. La Grèce a été une destination idéale en tant que transit. Une fois que la Grèce a été fermée, une fois que les frontières gréco-macédoniennes ont été fermées, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie avait un travail facile à faire, si je peux dire. Alors, il ne faut pas fétichiser l'accord.
D'accord, ça on a bien compris, mais pour ce qui ressort et ce qui appartient précisément à l'accord, est-ce que la Turquie accueille de manière convenable les migrants sur son territoire?
Écoute, à ce moment-là, en Turquie, on a 2 700 000 migrants et réfugiés qui viennent de la Syrie et des autres pays. Alors, la Turquie fait le travail sale pour l'Union européenne. C'est pourquoi on a signé cet accord, c'est pourquoi on a signé cette deal, comme on dit. Mais de l'autre côté, la Turquie n'a pas, selon les données du droit international de la protection des droits de l'homme, toutes les garanties qui sont demandées. La Turquie n'a pas ratifié de façon convenable la Convention de Genève. Cela veut dire que la Turquie n'implique pas le principe de non-refoulement. Les Syriens qui se trouvent en Turquie peuvent à n'importe quel moment se trouver rentrer en Syrie. C'est pourquoi on dit que cet accord-là n'est pas en compatibilité avec le droit international.
Gayitz Minassian, votre lecture de cet accord qui a donc un an?
Eh bien, aujourd'hui, je dirais que malgré toutes les difficultés, il arrange tout le monde, finalement. Il arrange même les Turcs. Et d'ailleurs, les Turcs ne le brandissent pas trop comme une menace maintenant. C'était plutôt l'objet des menaces il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, là, ici ou là, quelques déclarations, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a quelques mois.
Il arrange tout le monde, pourquoi?
Parce qu'en fait, on règle un problème, a priori, on règle un problème. L'Allemagne a négocié seule, il n'y a plus d'arrivée massive de réfugiés. En plus, il y a des problèmes entre les pays européens sur la répartition, enfin ça, on le sait tous. Et puis la Turquie a d'abord Ankara touche des crédits, alors pas directement parce que l'argent va aux ONG, mais en même temps, il y a un intérêt, je dirais, stratégique de la Turquie derrière cette affaire, parce que il y a une volonté de la part du régime, peut-être pas tout le monde dans le régime, mais une partie d'Erdogan notamment, d'accorder la nationalité turque à ces réfugiés et de les installer dans les régions qui sont majoritairement kurdes. Mmh. Donc vous voyez le,
je vois bien l'arrière-pensée voilà. Politique. Marc Pierini, votre lecture, votre analyse de cet accord qui a donc un an. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de l'UE en Turquie.
Je dirais que, avec toute son immoralité et son illégalité par rapport aux directives même de l'Union européenne, cet accord rend service, comme il vient d'être dit, mais surtout apporte des services sanitaires, d'éducation, d'emploi aux migrants syriens qui se trouvent en Syrie, et qu'il aussi sert les besoins des communautés hôtes, puisque évidemment, lorsqu'il y a un afflux de Syriens dans une ville comme Şanlıurfa ou Gaziantep, les hôpitaux sont surchargés, les écoles aussi, etc. Donc, les fonds européens vont aussi aux communautés hôtes. Donc, les institutions turques, qu'il s'agisse du Croissant Rouge, de l'Agence pour les situations d'urgence, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, sont toutes très satisfaite de cet accord. C'est seulement au niveau politique, le président, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, il y a quelques jours, qui menace de révoquer l'accord. Mais cette menace n'est pas crédible parce que, tout simplement, le conflit syrien se stabilise petit à petit. Un règlement va se faire dans les mois ou les années qui viennent, mais selon les termes dictés par la Russie. Donc il n'y aura pas de nouvelle vague d'un million ou deux millions de réfugiés. Par contre, il y a un risque important, risque terroriste pour la Turquie, qui risque de voir revenir ses propres djihadistes. Et la Turquie a des milliers, sinon des dizaines de milliers de sympathisants de l'État islamique. Donc cette menace ne fait guère de sens. Par contre, bien sûr, il y a une manœuvre qui se prépare, qui est de changer la démographie électorale du sud-est de la Turquie.
Mmh. Mais je dirais du point de vue européen, Marc Pierini, est-ce un bon accord? Vous l'avez décrit comme immoral, mais est-il efficace?
Il est efficace parce que, comme disent les politiciens et les membres du Conseil européen, les chiffres ont chuté. Voilà, c'est dans cette mesure-là où il est efficace. Nous n'avons aucune garantie, bien sûr, sur les droits des Syriens ou d'autres en Turquie, pour les raisons qui ont été expliquées tout à l'heure.
Il n'y a pas d'observateurs sur place ?
Il y a des fonctionnaires de l'agence d'urgence ECHO de l'Union européenne, mais c'est pour la mise en œuvre des mesures concrètes. La partie retour depuis la Grèce ne marche pas très bien. Donc, au fond, ce qui marche très bien, c'est l'humanitaire.
Et ce qui est déjà pas mal, hein.
Ce qui est déjà pas mal, on peut s'en féliciter. Des centaines de milliers de gens bénéficient de cette aide, donc c'est déjà ça. Mais en même temps, la menace turque de révoquer l'accord, ça fait partie de la grande nervosité ambiante en Ankara, parce que il y a un risque de perdre ce référendum vital le 16 avril, qui vient après la déstabilisation du coup d'État de juillet dernier. Et donc, il y a une grande escalade diplomatique qui relève d'abord de la politique intérieure.
Dites-nous, Gaït Minassian, ce qu'il en est exactement de ce chantage, justement, à la révocation de l'accord. Marc Pierini disait à l'instant qu'il fallait le lire à la lumière de la politique intérieure turque. Mais est-ce qu'il y a vraiment un chantage? On sait qu'il y a un levier, de fait, est-ce qu'il y a un chantage?
La Turquie a pour habitude de pratiquer la diplomatie du chantage. C'est pas nouveau, ça date de l'Empire ottoman et aujourd'hui on en a encore un exemple avec cette affaire d'immigrants, voire autre chose avec l'affaire du référendum. Mais oui, il y a, monsieur l'ambassadeur vient de le dire à propos donc du référendum, il y a aussi l'idée que derrière, en tapant sur l'Europe, les Européens, eh bien, on essaie de gagner les quelques points qui lui manquent. Et c'est pas nouveau de la part d'Erdogan. Il a fait ça au moins depuis le mois de juin 2015 quand il avait enregistrer une semi-victoire, parce qu'il gagne les élections législatives, mais il n'a pas la majorité absolue. Et pire, le parti pro-kurde, parti démocratique kurde, fait son entrée au Parlement. Avec, en passant la barre des 10%. Petite parenthèse, c'est un des rares États en Europe, voire au monde, où il faut passer la barre des 10% pour être représenté au Parlement. Vous vous rendez compte? Donc, si vous voulez, oui, il y a une dimension interne et externe. D'ailleurs, en Turquie, il y a toujours cette dimension interne et externe. Et on pourrait dire que dans la mondialisation, tous les pays sont concernés. Mais en Turquie en particulier. Et cette affaire de que ce soit l'affaire des migrants, que ce soit l'affaire la polémique actuelle avec l'Union européenne et Ankara, tout ceci traduit quand même une sorte d'hystérie incontrôlable. Et on a envie de dire, mais du calme, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui justifie tout ça? Et c'est vrai que Erdogan dépasse les bornes. Je veux dire, comment lui peut dire l'Allemagne post-nazie, Merkel l'a qualifié de nazi, les Hollandais qui ont été les victimes du nazisme
sont fascistes,
etc. Donc, à un moment donné, il faut, surtout quand ça vient de la part d'un État qui est négationniste lui-même, et dont le régime d'avant avait inspiré un peu les nazis dans les années 30. Donc, il y en a envie de dire du calme à tout le monde. Et surtout au président Erdogan.
Comment l'expliquer, cette montée de tension, cette explosion même verbale de la part de la Turquie, Marc Pirini? Nazisme, fascisme, quand c'est adressé à l'Allemagne et aux Pays-Bas, c'est pas n'importe quoi tout de même.
Bah, c'est non seulement inacceptable, c'est aussi insultant quand on pense que la Turquie est formellement candidat à l'adhésion à l'Union européenne, qui est elle-même bâtie sur le rejet des guerres internes et bien sûr du nazisme. Alors, l'escalade diplomatique, elle vient d'un concept très simple, c'est que en août 2014, le président Erdogan a remporté la première élection directe d'un président de la République avec 52%, et dans sa conception majoritaire du pouvoir, j'ai 52%, donc j'ai tous les pouvoirs, il faut aligner le reste, c'est-à-dire la Constitution, sur cet état de fait. Malheureusement, comme il vient d'être dit, les élections de juin 2015, donc la première échéance après son élection, lui infligent un revers considérable qui, normalement, aurait dû résulter dans un gouvernement de coalition. Mais ça, le président Erdogan ne peut même pas l'envisager. Donc il se débrouille pour faire échouer les discussions d'une coalition, et il fait des élections anticipées en novembre, il les remporte. Ensuite vient le coup d'État, sans rentrer dans l'histoire trouble de ce coup d'État. On voit bien que le pouvoir, l'armée, les services, la justice sont terriblement déstabilisés. Et donc, dans l'alliance actuelle entre l'AKP, parti au pouvoir, et le MHP, le parti nationaliste, il faut évidemment exciter la fibre nationaliste pour pouvoir remporter
Le MHP, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, mais le MHP, c'est plus qu'un parti nationaliste. Ils sont tous Gates nationalistes. Nation. C'est un parti d'extrême droite.
Oui, absolument.
Et oui, il faut le préciser.
Mais ce parti-là est terriblement divisé sur le référendum et sur les pouvoirs absolus que cela va donner à Erdogan. Parce qu'il faut bien voir ce qu'il y a dans ces 18 articles du référendum, tout s'éparpillé un peu partout dans le texte, mais on institue tout simplement le régime d'un seul homme, sans contre-pouvoir, sans liberté d'expression. Et en plus, dans une campagne qui est totalement inéquitable, puisque on est en état d'urgence, et que donc ceux qui veulent faire des réunions pour le non sont soumis à autorisation du gouvernement. Vous voyez bien comment ça peut se passer.
Dans le mécanisme de l'accord Gaïds-Minassian, il y avait de l'argent, une facilité d'obtention des visas et la promesse de poursuivre les négociations d'entrée de la Turquie avec l'Union européenne. Contre ces trois points, la Turquie a accepté d'être la frontière extérieure de l'Europe. Où en est-on aujourd'hui du volet négociation pour l'entrée de la Turquie dans l'UE? De fait, j'imagine que ça s'est arrêté, mais est-ce qu'il faudrait franchir un pas supplémentaire et l'acter politiquement?
Le chapitre qui a été ouvert, c'est le chapitre sur les questions budgétaires. Et pour l'instant, il est au point mort, premièrement. Deuxièmement, il n'y avait pas que l'ouverture... Le maintien des réfugiés en Turquie. Il y avait aussi 88, je crois, conditions que Bruxelles posait à Ankara, et notamment la révision de la loi contre le terrorisme. Petite parenthèse, la Turquie est le pays qui compte le plus de journalistes en prison en Europe. Ça, il faut quand même le préciser. On est dans un lieu connu ici pour défendre les journalistes. Et nous-mêmes étant... journaliste. Donc, si vous voulez, les négociations sont aujourd'hui au point mort. Mais vraiment, je veux dire, on n'ose pas le dire entre Turcs et Européens, mais c'est mort. Je veux dire, le journal Le Monde a encore fait, je crois hier ou avant-hier, 2-3 articles là-dessus pour préciser justement que, eh bien, c'est c'est un divorce, mais sans le dire. Mmh. C'est comme un couple qui se sépare, mais qui n'ose pas dire « je te quitte ».
Voilà. Il faudrait le dire, Marc Pierini, pour que les choses soient claires et qu'on puisse se remettre à faire de la politique.
C'est bien la question qui se pose maintenant. Mais, comme chacun sait, les politiciens aiment rarement admettre et proclamer l'échec. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce soit la négociation d'adhésion ou l'affaire des visas, ce sont des démarches qui ont commencé bien avant l'accord sur les migrants. Négociation d'adhésion en 2005, l'accord sur les visas, la négociation a commencé en 2013. Les conditions étaient là depuis toujours. Ce sont ces conditions qui sont au filet de l'évolution du pouvoir en Turquie et du renforcement des pouvoirs d'un seul homme, ces conditions sont devenues inacceptables pour la Turquie. Alors, je ne sais pas si on va le dire. Imaginez qu'à l'été 2015, il y avait une telle panique dans les rangs du Conseil européen qu'on a mis sur le plateau, quand on a envoyé Monsieur Tusk à Ankara pour la première fois, à la mi-septembre 2015, on a mis sur le plateau ces négociations qui ne faisaient aucun sens, les visas et l'adhésion, les chapitres pour l'adhésion, dans un deal sur les réfugiés. Aujourd'hui, on ne peut plus avancer sur ces deux autres choses, donc on va, j'espère, garder et peut-être améliorer l'accord sur les migrants, et on va surtout, comme la Commission l'a proposé le 21 décembre, moderniser l'union douanière entre l'Union européenne et la Turquie, qui est le principal véhicule aujourd'hui où peuvent s'exprimer les intérêts réciproques. Et ça, c'est dans l'intérêt de l'Europe comme de la Turquie.
Merci à tous les trois. Gaït Minassian, journaliste pour les pages débat du Monde, enseignant en relations internationales à Sciences Po. Marc Pierini, en duplex des studios de Radio France à Bruxelles, ancien ambassadeur de l'UE en Turquie, auteur de « Où va la Turquie ?» chez Actes Sud. Et en début d'émission, Dimitris Christopoulos, président de la FIDH, professeur de sciences politiques à l'Université d'Athènes. Michael Thébault à suivre. With a capital G, ball in the beat, status Chris Paul or John Wall in the league, grab a mic till the knuckles will bleed, cause I believe the potent and I'm potent, have you geek like speed, if rationale is natural, I will weave, it's all edges and peace, setting press free on a permanent steeze, I'm in the world where my princess is Leia, ain't she feeling my Vader, and my lore grows greater and greater, Kim trails dropping poisonous vapors, have you shaking like Gator, been trill, nigga, prostitute data, Blu-ray wave, follow a beta, I DVR for later, copper massa with a G, I'm a waiter, you can't define minus X, Y, Z, it's a generational elitist, happy cheating, virtual think pieces. See these written words with poetical science, brains defiant, thoughts heavy, baby, they're a major appliance. Leave a tan when dropping to flying us through a giant. Dude's nice, he tight screwed in with some pliers, cool with some buyers. Yeah, nigga, cool with some growers. Never know tattletales, only I don't know us. Yeah, show me generation, show us what you gon' show us. So listen, mommy, CV, cuckoo with a boy. Mouthpiece like coins with a jubilant noise. Dude's rude and as useless as coins, shoot them boys. Versed and rehearsed in the soothing of loins. Talk to Joey Earl, Kendrick Cole. Gatekeepers afloat, they are extensions of instinctual soul. It's the highest of commodity grade, and you can get it today. One hit and reading pages of Poe. Telly is low, cuddle bunny ready to go. Day of the dead, bury all the zombies instead. And it's just your aftermath, bust a cut in your dreads. Bruce Lee and niggas, Ryo niggas, UFC. Smoke tree. 18h36 sur Inter, on file en Syrie.
Bertiolas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Direction donc la Syrie, retour à Alep, 3 mois tout juste après la prise de la ville par l'armée syrienne.
Ouais, c'était précisément le 22 décembre, l'armée syrienne et son allié russe délogeaient ou tuaient les derniers djihadistes du groupe État islamique et autres milices sous obédience. Alep Est et Alep Ouest étaient de nouveau réunis. Victoire du régime régime syrien, mais à quel prix pour les civils? Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir Michael.
Alors vous avez pu, avec Arthur Gerbeau, entrer dans Alep il y a quelques semaines, entrer par la banlieue sud à Ramousset, exactement Christian.
Oui, et là nous avons traversé des quartiers dévastés, comme si un tremblement de terre venait de se produire. Alors toute la ville n'a pas été détruite, notamment les quartiers ouest, où la vie semble en apparence normale. En revanche, dans le centre historique, les dégâts sont considérables, comme l'explique Mahmoud Abdelkarim, le patron des antiquités syriennes.
Franchement, il y a 30% presque catastrophique. C'est-à-dire, il y a des bâtiments qui sont totalement rasés, surtout le sud de la citadelle, avec plusieurs bâtiments qui datent à l'époque ayyubite, mamelukite, c'est-à-dire 8 siècles, 7 siècles, sont presque rasés. Le souk connu de la ville d'Alep, au-delà de 60%, soit brûlé, soit détruit aussi. Et donc, c'est un vrai défi aujourd'hui, comment on va dans l'étape suivante. Je pense qu'on doit être vigilant, comme Direction Générale des Antiquités des Musées de Syrie. On doit être ferme contre toutes les idées qui visent à déformer l'image de la ville. Nous, on insiste de rendre Alep sa splendeur, comme une ville ancienne, pas de nouvelle construction, moderne, absolument pas. Et pour commencer, je pense, avant qu'on parle sur les détails, il faut que le peuple d'Alep revienne à sa ville.
Alors dans Alep, Michael, il n'y a plus de ligne de démarcation, la ville est réunifiée depuis 3 mois. Alors on ne meurt pas de faim, les agences de l'ONU, mais aussi la Russie et l'Iran distribuent dans les rues de la nourriture gratuitement, notamment des sandwichs de falafel. Le problème, c'est que la ville est encore privée d'eau et d'électricité, ce qui n'empêche pas les habitants des quartiers Est, qui étaient tenus par les groupes armés, de commencer à revenir chez eux, constate Georges Kominos, responsable du comité international de la Croix-Rouge pour Alep.
On peut dire en gros qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui sont retournées dans les quartiers, si vous voulez, orientaux de la ville.
Sauf que tout est détruit.
Tout est détruit, je dirais pas. Il y a un niveau de destruction qui est important. La destruction est véritablement de caractère. On peut la caractériser de manière massive. Maintenant, il y a évidemment là où les gens peuvent retourner, c'est quand les immeubles sont certes touchés, affectés, mais encore dans une mesure, une possibilité d'accueillir les familles. Il y a un problème quand même majeur, c'est-à-dire que finalement, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont tout simplement pas le choix. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir payer un loyer de ce côté ou qui préfèrent évidemment rentrer chez elles, même si l'état du bâtiment dans lequel elles habitent, elles s'abritent, n'est pas parfait. Parce que c'est des bâtiments, évidemment, une fois de plus, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a aucun service de base autour de ça. Donc c'est une situation qui est quand même très, très difficile.
Et il faudra évidemment beaucoup de temps, Christian, pour reconstruire la ville et surtout pour réparer les traumatismes de guerre.
Oui, parce que pas une famille d'Alep n'a été épargnée par les violences. Les gens ont vécu des horreurs pendant 5 ans et la ville est encore sous le choc. Écoutez, Georges Bachoura, ingénieur agronome.
Alep a été changée. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de modifications, beaucoup de changements dans les bâtiments, dans l'état d'esprit des gens. Ça a été autre chose. Ça a été complètement bouleversé, chamboulé. Même la mentalité a été complètement modifiée.
Dans quel sens ?
Négatif, tout à fait négatif. On voit beaucoup de pauvreté, beaucoup d'illettrisme. Il y a moins de services, moins d'électricité. Mais ça fait 2 mois qu'on n'a même pas d'eau. On fait appel à des eaux de puits, à des sociétés avec des citernes. Et comme ça, ils apportent de l'eau à domicile. Même l'électricité, vraiment, c'est une catastrophe.
Et sur le plan moral, vous avez l'impression que les gens sont traumatisés ?
En général, beaucoup, beaucoup. La guerre, c'est pas facile. Hein. Quand on trouve des personnes décapitées, des personnes tuées, c'est normal. La morale tombe. Moi, j'ai perdu beaucoup de mes amis. Avec des mortiers, des obus lancés d'Alep, de l'Est, vers notre région, et j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais que puis-je faire ? C'est la guerre.
Et malgré toutes ces horreurs, malgré toutes ces difficultés, Christian, vous avez trouvé beaucoup de dignité chez tous ces habitants d'Alep.
Oui, les gens ont fait preuve d'une résilience, d'un courage extraordinaire. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur ville a subi une telle épreuve. Je vous propose de rencontrer Lorraine Bakalian. C'est une employée de banque qui est restée à Alep, y compris au moment où les combats faisaient rage.
Là, maintenant, on se trouve à Azizieh, centre-ville, downtown.
Et là, vous étiez proche de la ligne de front, vous étiez un petit peu à l'abri?
Les deux ensemble.
C'est-à-dire que votre immeuble a été touché par des roquettes ?
Oui, autour. Dans le quartier ici, tout autour de nous, il y avait toujours des missiles. On a eu des vitres qui se sont cassées 3-4 fois.
Et alors vous, pourquoi vous êtes resté ?
Je suis restée parce que j'ai mon boulot et je ne peux pas quitter le boulot. J'ai jamais une garantie d'avoir un boulot ailleurs.
Sauf qu'il y avait des risques énormes ici.
Beaucoup, beaucoup de risques.
Depuis 3 mois, Alep est réunifié. Les gens soufflent un petit peu.
Oui, on a repris un souffle. Il n'y avait plus de missiles. On marchait très à l'aise dans les rues. Oui, c'est autrement, c'est autrement.
Est-ce que les gens, maintenant, ont de l'espoir, reprennent espoir ?
Oui, oui. Petit à petit, on doit reprendre le train de vie. Peut-être pas dans 1 année ou 2 années, mais ça doit aller, ça doit aller.
Et vous, à la banque, comment vous sentez ça ? Il y a plus d'activité, les gens reviennent, comment ça se passe ?
Oui, récemment, on a eu des clients qui sont revenus du Liban, du côté de Latakia et de Tartous, pour reprendre leur boulot et puis voir leur compte chez nous.
Alors, vous l'avez entendu, Michael, il y a un petit peu d'espoir, car les Alépins sont des entrepreneurs dans l'âme, mais il faut bien constater que la reconstruction de la ville n'a pas encore commencé. On est encore dans la phase de déblaiement et de l'urgence humanitaire.
Christian Chesneau, de retour d'Alep, assisté à la technique d'Arthur Gerbeau. Merci à tous les deux.
Et après la Syrie, direction le Mexique, Michael, où l'on parle évidemment beaucoup de la politique migratoire américaine.
Et forcément, avec cette menace de Donald Trump d'expulser 2 à 3 millions de migrants sans papier, pour la plupart d'origine mexicaine. Menace qui s'ajoute, vous le savez, à la construction du futur mur. Résultat, véritable climat de peur. Et des deux côtés de la frontière, car on ne le sait pas forcément, mais des dizaines de milliers d'expulsions ont déjà eu lieu sous l'ère Obama. Et le retour au Mexique s'est rarement bien passé. Bonsoir Emmanuel Stiles, en direct de Mexico.
Bonsoir Michael.
Alors ces retours au pays se font dans des conditions souvent très difficiles. Et d'abord bien sûr d'un point de vue familial, Emmanuel, avec presque toujours ces mêmes scènes de séparation, famille déchirée des deux côtés de la frontière.
Oui, en effet, il y a de plus en plus de cas de migrants qui ont eu des enfants aux États-Unis. Les parents sont expulsés car ils n'ont pas de papier, malgré le fait que leurs enfants soient des citoyens américains. C'est ce qu'a vécu Julia, une femme de 39 ans qui a été expulsée 4 fois au cours des dernières années, après avoir tenté de rejoindre ses 4 enfants qui sont nés en Californie. À chaque fois, elle a traversé le désert, mais elle a été arrêtée et emprisonnée sous la présidence de Barack Obama. Maintenant, elle se rend compte que la perspective d'une réunion familiale est encore plus improbable. On l'écoute.
Je voudrais que tout soit différent, voir mes enfants, être avec eux, vivre avec eux. Mais c'est une situation vraiment difficile. On me considère comme une criminelle parce que j'étais simplement en situation illégale. En plus, après avoir été en prison, après avoir traversé plusieurs fois le désert, je me retrouve sans rien. Je suis à bout, je suis vaincue.
Et à la douleur de la séparation familiale s'ajoute un autre obstacle, Emmanuel, économique, celui-là, retrouver du travail au Mexique.
Oui, c'est ce qui les a poussés à quitter le Mexique 10 ou 20 ans auparavant et c'est la même difficulté à laquelle ils se heurtent au retour. Car les compétences qu'ils ont acquises aux États-Unis ne sont pas mises à profit ici. C'est ce que nous explique Arturo Villaseñor de l'organisation Initiative Citoyenne qui réalise des projets pour la réinsertion des migrants dans la région de Puebla, près de la ville de Mexico.
Beaucoup de migrants ont développé des aptitudes professionnelles aux États-Unis, dans l'industrie ou dans certains types de services, ce qui les amène à se spécialiser dans des domaines très spécifiques qui n'existent pas au Mexique. Combien de techniciens en entretien de piscine faut-il dans une région où il n'y a pas de piscine ?
Effectivement, besoin quasi nul. Et quand il s'agit de retour volontaire, car il y en a aussi, est-ce que ça se passe mieux ?
Non, car il y a toujours un choc avec une réalité très différente de celle des États-Unis, à commencer par exemple par des salaires qui sont au moins 5 fois supérieurs au salaire américain. Le problème, c'est que les migrants de retour ne se sentent pas accueillis, ne se sentent pas valorisés au Mexique. C'est ce que raconte Maria Elena, qui est revenue en 2009 suite à l'expulsion de son fils aîné. Malgré un solide bagage professionnel aux États-Unis, elle ne trouve pas sa place au Mexique.
Ça n'est pas facile. Par exemple, je n'ai jamais retrouvé de travail ici. La première chose qu'on te demande, c'est ton expérience, celle d'ici. Parce que l'expérience professionnelle que tu as eue là-bas, ça ne compte pas. Toutes les portes se ferment. C'est moche, parce que c'est ton pays, c'est chez toi, mais tu te sens vulnérable. Tu arrives dans ton pays, mais c'est difficile de te réintégrer.
Voilà, se réintégrer dans son propre pays. Merci Emmanuel Stiles, correspondante de France Inter à Mexico. Et Nicolas, à demain.
À demain, Michael.
The 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Trump à la Maison-Blanche, le feuilleton politique américain du lundi en direct de Washington. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On en disait un mot dans le journal de 18h, riche actualité cette semaine, avec aujourd'hui même, Frédéric, l'examen par le Congrès de l'explosif dossier des relations Trump-Russie.
Absolument, et depuis près de 4 heures maintenant, les super espions américains s'expriment sur tous les aspects de ce vaste dossier. Et il n'y a rien de bon pour le moment pour le président américain. Pour la première fois, le directeur du FBI confirme l'enquête sur des liens éventuels entre des proches de Donald Trump et des Russes pendant la campagne. Et puis, on l'a entendu effectivement tout à l'heure, en une phrase, James Comey balaye les accusations d'écoute de Donald Trump par Barack Obama. On n'a aucune information pour appuyer cela. Sans doute s'agit-il de la plus solennelle mise en garde à Donald Trump sur sa manie de tweeter. Les démocrates ont en tout cas ce qu'ils voulaient sur ce sujet. Et Adam Schiff, un élu de ce parti, dénonce le rapport décidément compliqué du président américain à la vérité.
C'est comme cela que Donald Trump se conduit. Peut-être qu'il faisait ça dans l'immobilier avec des demi-vérités et des vrais mensonges, mais je ne pense pas que cela soit bon dans les affaires. Et c'est pire au gouvernement. C'est dangereux et cela nous coupe de nos alliés. Nous avons besoin de croire notre président et il ne facilite pas la tâche.
Reste à savoir ce qu'il va faire maintenant Donald Trump, d'autant que le directeur de la NSA, les grandes oreilles américaines, rejette lui les propos du porte-parole de la Maison-Blanche sur l'implication des services britanniques dans ces pseudo-écoutes. Il reprend même le terme de ridicule employé par Londres. Les républicains sont donc bien embarrassés et avant même cette audition, certains comme Tom Cole suggéraient à Donald Trump de s'excuser.
Rien n'indique que cela s'est passé et je n'aurais jamais porté ces accusations. Je pense qu'en l'absence de toute preuve, le président Obama mériterait des excuses. S'il n'a rien fait, nous ne devrions pas être imprudents dans nos accusations.
Alors on imagine que le président américain suit de près cette audition, franchement assez négative pour lui. C'est pour cela qu'avant même la fin de la séance, la Maison-Blanche affirme que sur le fond, il n'y a rien, aucune preuve de collusion entre des proches de Donald Trump et des Russes pendant la campagne électorale. James Comey, le directeur du FBI, ne va pas aussi loin. Enquête en cours, je ne peux pas en dire plus. Il passe l'essentiel de son temps, Nicolas, à ne pas vraiment répondre aux questions précises posées par les élus.
En tout cas, cette journée d'audition intervient après une semaine difficile, Frédéric, pour Donald Trump, qui se traduit en mauvais sondage, trou d'air dans l'opinion pour le président américain.
Effectivement, tous les sondages publiés ces jours-ci ne donnent pas les mêmes chiffres, mais tous reflètent la même tendance. La popularité de Donald Trump baisse encore un peu moins de 40%, comme si ses électeurs commençaient à se demander si la politique menée était bonne pour eux, notamment cette frange de l'électorat populaire dans les États sinistrés industriellement. Je vous donne deux exemples. D'abord, les coupes budgétaires prévues dans le projet présenté la semaine dernière, le projet de budget, moins d'aide, moins de programmes sociaux au nom d'un État moins interventionniste. Et Mike Mulvaney, le ministre du budget, vient essayer de rassurer ses électeurs.
Le président sait qui sont ses électeurs. Ce sont des gens qui payent aussi les impôts. Et pour la première fois depuis longtemps, nous avons une administration qui a le souci d'une compassion à double sens. Pas seulement en se demandant où va l'argent, mais aussi dans quelle poche est-il pris. Pouvons-nous demander à un mineur de Virginie occidentale de payer pour que le gouvernement fédéral finance un programme national de développement artistique?
Voilà, notion un peu étonnante, la compassion à double sens, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que dans le domaine de la culture ou de l'environnement que ces réductions sont prévues. Un exemple, Meals on Wheels, c'est de l'aide alimentaire pour les personnes âgées démunies, subvention coupée là aussi. Dans les régions rurales, l'impact serait sévère. Voici donc l'appel d'Ali Hollander, elle est la directrice de cette association.
Nous n'avons pas l'habitude d'avoir à nous défendre. Il y a tout juste 45 ans, le président Nixon adoptait une loi qui créait ce programme d'aide alimentaire. Cette initiative est bénéfique pour tout le monde. Des millions de personnes âgées comptent sur nous pour pouvoir continuer à mener une vie digne et indépendante. Et nos volontaires sont parfois les seules personnes qu'elles voient au cours de leur journée.
Alors les personnes âgées avec peu de moyens, c'est une clientèle électorale de Donald Trump. Elles seraient aussi les premières victimes de la réforme de la santé dont on parlait longuement la semaine dernière. C'est le résultat de l'étude indépendante dévoilée récemment et qui prévoit qu'à l'horizon 2020, plus de 20 millions d'Américains n'auraient plus d'assurance médicale. Donc on est en train d'amender le projet et Donald Trump, à sa façon de businessman, fait un lobbying intense auprès des élus pour les convaincre de voter ce texte. Écoutez le président américain à la fin d'une réunion à la Maison-Blanche avec quelques-uns de ses républicains sceptiques. All of these
no's. Tous ces votes non ou potentiellement non sont des oui. Toutes les personnes réunies dans cette pièce sont maintenant convaincues. C'était parfois des noms fermes, d'autres des noms hésitants, mais je vous remercie tous et nous aurons une grande loi sur la santé.
Voilà, merci Monsieur le Président. Donald Trump, donc vous voyez qu'il mouille la chemise. Et ce genre de réunion ne se passe pas qu'à la Maison-Blanche. Alors là, c'était public, mais le week-end dernier, ça a été très intense également à Mar-a-Lago. Vous savez, la résidence de Floride où il va régulièrement et où on a vu passer beaucoup d'élus ou d'influents représentants du lobby conservateur. Il faut les convaincre de voter sa loi. Le vote est prévu jeudi, Nicolas.
Alors vous le disiez, hein, Frédéric, il va très souvent à Mar-a-Lago, le président américain, en Floride, en week-end. Est-ce qu'on sait ce qu'il regarde à la télévision?
Eh bien, je vais vous dire que probablement, il lui arrive de tomber sur des publicités faites spécialement pour lui. Parce qu'effectivement, tout le monde sait que Donald Trump est un téléspectateur assidu. Donc, CNN nous apprend que des lobbies anti-avortement, ou au contraire, pro-planning familial, ou pour de tout autre sujet, achètent des espaces publicitaires destinés uniquement à diffusion sur le réseau local en Floride, quand Donald Trump y passe ses week-ends. Et ils sont diffusés notamment pendant une des émissions qu'il critique le plus volontiers sur Twitter, mais qu'il regarde tout le temps, Saturday Night Live, le grand show satirique du samedi soir. Vous le voyez, Nicolas, il y avait déjà les publicités exceptionnelles spéciales Super Bowl et qu'on paye des millions et des millions de dollars. Désormais, il y a le spot spécial Donald Trump quand il est en week-end en Floride.
Frédéric Carbone en direct de Washington. Merci. 18h53, Anthony Bélanger dans quelques instants. D'ici là, Elvis Presley. You look like an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. In heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in the sky. Devil in disguise, le king sur Inter.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Et le prince consort, Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Direction le Brésil, Anthony, aujourd'hui pour un scandale qui mêle corruption et viande avariée.
Alors je sais ce que tout le monde pense, encore un scandale de corruption brésilien. Et franchement, je ne donne pas tort à nos auditeurs. Pas plus tard que vendredi dernier, le Brésil a fêté les 3 ans du plus grand scandale de corruption de son histoire, le fameux scandale Lavage à tout. Une véritable machine de corruption qui mêle milieu politique, tout parti confondu, et pour laquelle la justice brésilienne écoutez bien, brésilienne a conduit 746 perquisitions et saisies, procédé à 198 arrestations et instruit 57 plaintes au pénal contre 260 personnes. En tout, les juges ont récupéré la somme fabuleuse de 10 milliards de reais pour le trésor brésilien, c'est-à-dire 3 milliards d'euros. Et c'est loin d'être fini parce que le procureur général du Brésil vient de déposer 320 plaintes de plus et a demandé l'inculpation de 85 politiciens, dont deux anciens présidents, Dilma et Lula. C'est d'autant moins fini qu'au scandale d'origine, celui impliquant, vous savez, la compagnie pétrolière nationale Petrobras, qui servait de vache à lait pour le Parti des travailleurs, entre autres, s'est ajouté un volet Odebrecht, du nom de cette entreprise du BTP. Et là, les découvertes des enquêteurs tiennent du roman policier. Cette entreprise spécialisée dans les grands projets d'infrastructure avait créé un cabinet noir secret où les employés les travaillaient à verser des pots de vin en échange de marchés publics.
Donc, le nouveau scandale impliquant des entreprises agroalimentaires, c'est business as usual, Anthony ?
Alors oui. Et non, vous voilà. Connaissez, voilà. Oui, parce qu'on prend les mêmes et on recommence. On commence d'ailleurs à comprendre comment chaque parti s'est attribué une part du gâteau. Donc, au Parti des Travailleurs, le pétrole. Au Mouvement Démocratique Brésilien, la viande. Or, le Mouvement Démocratique Brésilien, eh bien, c'est le parti du président Temer. Vous savez, celui qui a remplacé Dilma Rousseff après sa destitution. Et non, parce que ce scandale-là n'est pas comme les autres contenus dans les frontières du Brésil. Il déborde et il déborde beaucoup même. Je veux dire par là qu'il implique des entreprises agroalimentaires exportatrices, les inspecteurs du ministère de la Santé qui certifiaient la viande contre toute attente d'ailleurs, la douane qui fermait les yeux et des politiques qui recevaient des pots de vin en cash dans de petites boîtes en plastique. J'aime beaucoup ce détail de petites boîtes en plastique. Alors, il se trouve qu'une partie de cette viande a été exportée alors qu'elle était contaminée à la salmonelle, une bactérie tueuse et particulièrement tenace. Et exportée où, je vous le donne dans le mille, eh bien en Italie, les deux entreprises incriminées sont d'énormes exportateurs. Autrement dit, ce scandale affecte directement l'image du pays et en plus risque de pénaliser pour longtemps un des secteurs économiques les plus florissants du pays, l'exportation de viande, bœuf ou poulet. D'ailleurs, ça n'a pas raté. Aussitôt le scandale dévoilé, la Chine et la Corée du Nord ont suspendu à titre conservatoire toute importation de viande en provenance du Brésil. Une catastrophe pour un pays déjà en récession.
Mais oui, c'est vrai, le Brésil n'est pas en grande forme en ce moment.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Taux de chômage à la hausse, devise nationale le Real en chute libre et au plus bas depuis 7 ans, et enfin une récession dantesque, puisque c'est la plus grave, en un siècle. Or, c'est maintenant que les choses deviennent délicates. Il faut bien avoir en tête qu'en Amérique latine, les militaires ont toujours justifié leur coup d'État en se fondant sur deux arguments, soit la déconfiture économique, soit la lutte contre la corruption, ou les deux. Exactement le cocktail que l'on retrouve aujourd'hui au Brésil, mais aussi au Venezuela. Un cocktail mortifère que l'on pourrait bientôt retrouver dans d'autres pays d'Amérique centrale, par exemple, disons le Nicaragua ou le Honduras. Le seul vrai point positif, c'est l'incroyable résilience du système brésilien, du système judiciaire brésilien. Car au fond, une justice si courageuse ne peut exister qu'en démocratie, et c'est elle, par ses enquêtes impitoyables, qui sauve l'honneur et probablement l'avenir de la démocratie brésilienne.
Anthony Bélanger, merci. Merci. Un mot du téléphone sonne à 19h20 consacré au premier débat télévisé qui opposera les 5 principaux candidats à la présidentielle. Vos questions 01 45 24 7000.